esprit, un vol de Montcolombe dans l'imaginaire portugais, avec la participation de José Maria Lima de Freitas, artiste peintre, enseignant à l'école d'art de l'AD et consultant au ministère de la Culture du Portugal, et Gilbert Durand, fondateur du Centre de recherche sur l'imaginaire et docteur honoris causa à l'Université Nouvelle de Lisbonne. Aujourd'hui, le couronnement de l'empereur.
Nous allons nous intéresser cette semaine à la troisième personne de la Trinité chrétienne, le Saint-Esprit, et singulièrement à un culte qui lui a été réservé pendant plusieurs siècles dans certaines régions d'Europe occidentale. Il s'agit d'un culte qui s'inspire bien évidemment des données testamentaires, mais qui puise aussi largement dans les ressources des grandes traditions païennes. C'est pourquoi, à bien des égards, le culte du Saint-Esprit, tel que nous l'évoquerons tout au long de ces émissions, reste tout à fait marginal par rapport aux institutions chrétiennes, catholiques ou orthodoxes, qui l'ont même parfois condamné. Nous décrirons différents aspects de ce culte du Saint-Esprit, des aspects iconographiques, mythiques, historiques, mais du point de vue surtout de la sensibilité et de l'imaginaire d'une région de l'Occident qui semblait particulièrement disposée à l'accueillir, le Portugal. Je crois que pour commencer ces rencontres avec vous, Gilbert Durand et Lima de Freitas, nous devons évoquer certaines survivances actuelles de ce culte dont vous avez été témoins tous deux, les fêtes du Saint-Esprit qui ont lieu encore de nos jours aux Açores. N'est-ce pas, Gilbert Durand?
Les fêtes du Saint-Esprit auxquelles nous avons été témoins, les participants, puisque nous avons participé à ces fêtes il y a quelques années dans l'île de Terceira aux Açores.
Et moi aussi, moi j'ai participé, enfin j'ai assisté aussi au village de Penedo, près de Sintra, enfin dans la montagne de Sintra, il y a 3 ans, je pense. C'est une fête très populaire.
Vous y étiez à quelle occasion?
Ça correspondait d'une part au vœu du Centre de recherche sur l'imaginaire de Lisbonne, qui avait organisé cela, puisque c'est un lieu et un culte très riche dans ce sens-là. Et également, c'est l'après-Pentecôte, puisque maintenant ces fêtes sont fixées dans les dimanches qui suivent la Pentecôte.
Ce sont des fêtes qui durent combien de temps?
Ça varie le long du temps. Au départ, je pense que c'était une octave.
Une semaine.
Et puis, maintenant, ça commence à la Pentecôte. Ça se prolonge parfois jusqu'à octobre.
Et vous êtes arrivé au début de ces fêtes, jeudi ou un vendredi, je crois, et vous avez pu assister au moment fort et important, enfin décisif, oui. qui entraîne... Tout le parcours.
C'est-à-dire le début de toute cette série de dimanches où il y a le couronnement de l'empereur, et puis le début même de la semaine du couronnement de l'empereur où il y a le vendredi, où l'on conduit les génisses et les taureaux pour les sacrifier, les mettre à mort, ce qui donnera la viande et la consommation du grand repas du dimanche.
Je pense qu'il faudrait d'abord expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est que le culte du Saint-Esprit actuellement, à partir de là. C'est une fête. Populaire, c'est une fête religieuse en même temps, et ça engage des villages entiers. Et il faut dire aussi, c'est essentiel, que ce culte reste très, très vivant, surtout aux Açores. Nous l'avons vu, Gilbert Durand et moi, dans l'île de Terceira, pas loin d'Angra do Heroísmo, Et c'est des fêtes qui ont certains rituels essentiels, dont le couronnement d'un empereur du Saint-Esprit, c'est une sorte d'empereur du monde et du Saint-Esprit, qui était choisi et qui continue d'être choisi parmi les membres des confréries du Saint-Esprit. Pour commencer, ça vient de très très loin, c'était un membre du peuple choisi par ses qualités d'honorabilité. Plus tard et plus récemment, c'est surtout un enfant qu'on choisit. L'empereur du monde, l'empereur du Saint-Esprit, enfin, ça veut dire que c'est un pouvoir tout à fait innocent qu'on couronne, n'est-ce pas? Et pas un pouvoir corrompu par le péché, n'est-ce pas? Par la chute. Alors, l'empereur homme du peuple, l'empereur enfant, ça reste comme tradition, bien que les fêtes n'ayant pas d'appui officiel ni ecclésiastique en général, pas du tout d'ailleurs, c'est rarissime. Alors, ça engage quand même une certaine somme d'argent de payer cette fête. Et donc, maintenant, c'est surtout des gens un peu plus riches dans le village qui se sentent très honorés de financer la fête. Un autre point essentiel, je veux dire, c'est d'abord le couronnement, ensuite le bodo, c'est-à-dire le repas collectif, le repas en commun, où toutes les classes s'effacent, et riches et pauvres partagent le même pain. Et c'est un repas rituel. Et puis, il y a certaines choses qui sont attachées à ce culte essentiel. C'est des processions avec la génisse ou le taureau qu'on va manger ensuite. Et il y avait aussi des traditions de folie, c'est-à-dire des sortes de comment ça
de folie fou, une sorte de fête de folie. Voilà, sinon traduit par folichon, mais c'est un peu trop. Les fous sont des fous, des fêtes des fous du Moyen Âge. Oui, du couronnement de la mère folle à Dijon, par exemple.
Mais alors, vous parlez d'un empereur. Est-ce que nous pourrions essayer de marquer le rapport direct avec le Saint-Esprit que nous avions compte tout à fait au début? Il s'agit de l'empereur de quel empire?
L'empire du Saint-Esprit. C'est-à-dire du 5e empire.
Oui. Donc ces confréries sont enracinées dans une histoire très, très lointaine.
Très lointaine, ah, oui. Parce que le culte Saint-Esprit, au Portugal, c'est un culte qui date du 13e siècle.
Au moins.
Oui. C'est-à-dire qu'il a été institutionnalisé au 13e siècle par le roi et la reine du Portugal. D'alors, c'était Dénis et Isabelle.
Je me permets de revenir sur la chronologie de la fête en elle-même, n'est-ce pas, qui est importante. Mon ami Limatritach a marqué les grands moments. Ça commence le vendredi par un défilé des bestiaux, taureaux, tourbillons, veaux, comme on dit, enfin, mais je préfère taureaux ou tourbillons, et génisse, fleurie, couronnée de rubans, même quelquefois avec les emblèmes du Saint-Esprit, qui sont abattus. Le vendredi soir, on consomme le sang cuit par les femmes dans des grandes marmites avec des épices, et on mange comme cela avec une boisson et du pain. Et ça, c'est aussi très important, je reviendrai plus tard là-dessus, sur l'origine de cela. Et puis, alors le dimanche, la fête commence par une distribution générale. Tous les villages convergent dans la confrérie. Distribution générale de nourriture, de pain au dos et de brioche, de pain en forme de colombe et de vin à volonté. Et puis, il y a les processions. Il y en a trois qui sont importantes. Sans prêtre, sauf dans l'église pour le couronnement, c'est le seul moment où le clergé intervient. Sinon, les processions sont en musique, sans prêtre, mais avec les objets du Saint-Esprit sur lesquels on viendra. Et puis, il y a le bodo, c'est-à-dire le grand banquet qui, dans notre confrérie de Ribérine, qui est un gros village près de Angra-do-Heroïs, qui groupait à peu près 400 personnes, mais il y avait là des spécialistes qui nous disaient que les riches assobiens en Californie offrent des bodos de 15 000 à 20 000 personnes.
Ils sont payés par qui?
Par l'empereur, oui. Donc il faut avoir déjà des fonds suffisants, surtout que ça dure 4 ou 5 dimanches de suite, n'est-ce pas, cette opération-là. Et alors après, il y a les défilés rituels, il y en a 3 donc, et il y a les transports des objets du Saint-Esprit, sur lesquels on reviendra, couronne, sceptre et plateau d'argent qui fait penser à certains d'entre nous au Graal, portés par les femmes d'ailleurs. Et également les édicules du Saint-Esprit, ou plutôt les maisons du Saint-Esprit, qui sont ces fameux impériaux dans lesquels on dépose ces objets.
Donc il existe dans beaucoup de villages,
partout. Tous les villages de sort. Moi je suis ensuite à Fayal.
Des maisons qui ont quel aspect? Ce sont des bâtiments avec une pièce unique, je crois.
Ce sont des petites maisons à la plante carrée, qui ont en général 3 fenêtres dans la façade principale et 2 fenêtres dans les façades latérales.
7
cette fenêtre et qui ont en général aussi un fronton où il y a rarement une croix, très souvent une colombe ou une couronne du Saint-Esprit, et qui sont repeintes au long des années, gardées toutes.
Qui ont un petit perron avec un certain nombre de marches, enfin, ils sont conçus selon un symbolisme architectural très précis.
Le perron existe toujours, mais les marches, je pense que ça varie. Mais l'essentiel, c'est l'hôtel qui est au-dedans, qui a en général 7 étages, où sont gardés justement la couronne, 7, etc.
Alors, c'est la fonction de ces maisons, c'est de garder les objets de ce culte.
Oui, ce ne sont pas des chapelles, il y a des rideaux aux fenêtres, ce sont les maisons du Saint-Esprit.
Les maisons du Saint-Esprit habitent.
Oui, c'est ça, les membres de la confrérie, ils se rassemblent souvent.
Et qui sont les propriétaires de ces maisons?
C'est la confrérie. La confrérie. Oui, là, au village que nous étions, il y avait 3 confréries du Saint-Esprit, qui chacune ont le même rituel et la même organisation, les mêmes distributions, etc.
Ça vaut peut-être la peine de dire aussi pourquoi en Californie, parce que les Açores qui ont gardé ce culte très vivace, sûrement parce que les Açores sont très très loin dans l'Atlantique. Aujourd'hui, ce n'est pas très loin parce que 3 heures d'avion, ça y est. Mais à l'époque, enfin, c'était très loin. Alors, les Açoriens ont gardé ce culte très vivace et très pur encore. Mais ils ont immigré, ils continuent d'émigrer beaucoup en Amérique du Nord pour chercher du travail. Il y a des colonies d'émigrants portugais, surtout en Californie. Ce qui explique pourquoi en Californie on retrouve le culte du Saint-Esprit avec une ampleur américaine, si oui. Je veux dire. Il y a même la Miss de ce Saint-Esprit qui est venue pendant la fête du Saint-Esprit aux États-Unis.
En plus de l'empereur et ses 2 coadjuteurs, qu'on appelle les majordomes, il y a 3 couronnes, à vrai dire, c'est important, ça fait 3 couronnes distribuées. Il y a en Californie la nièce ou la fille de l'empereur ou du roi qui est couronnée aussi avec tout le faste américain, une grande traite. Elle n'est pas tout de même en bikini.
Non,
mais c'est une miss américaine.
Mais alors, vous évoquiez tout à l'heure des éléments dont vous avez été témoin, là-bas, sacrifice de taureaux, ces grands repas, ces processions. Apparaissent là déjà des manifestations qui peuvent nous signifier qu'il y a là une sorte de grand mixte à la fois chrétien, païen, arthurien aussi, de nos traditions d'Europe, Gilbert Durand.
Ah oui, alors
ce taureau, par exemple.
Si j'ai marge dans ce domaine-là, je crois avoir fait une découverte collective au sujet des couronnes, on en reparlera plus tard, mais là, une découverte personnelle, ce taureau était en effet insolite, car il n'existe pas dans les liturgies chrétiennes ce taureau sacrifié avec emphase, avec ce n'est pas simplement de la viande de boucherie, on défile avec lui le vendredi, il y a la musique, le défilé. J'ai retrouvé exactement, grâce à la mobilité de mon collègue de Rennes, M. Buonbar, qui est le spécialiste des Celtes, la même procédure dans le couronnement du roi Celte. Avec cette différence, c'est que le roi Celte n'était pas élu démocratiquement, mais les bardes, après le sacrifice du taureau, les bardes ingurgitaient le sang du taureau, je ne sais pas s'il était cuit comme de nos jours, je le suppose, et rêvaient la nuit à celui qui serait couronné le roi du clan Celte dans la semaine, n'est-ce pas ? Donc vous avez là particulièrement un apport celtique qui est évident. Et puis alors par derrière, bien sûr, il y a toute l'archétype de l'empereur, surtout tel que les Romains l'ont diffusé, l'ont transmis. Notre ami Joël Thomas avait fait d'ailleurs un exposé là-dessus, le culte de l'empereur, Divus, et tout ce que cela implique, l'empereur qui est le retour, chez Virgile, le retour de l'âge de Saturne, de l'âge d'or. Là, je suis toujours partisan en anthropologie religieuse du syncrétisme, et un syncrétisme alors véritablement très solide, d'une part entre les Saturnales, c'est-à-dire une fête dont on garde des traces dans l'Église orthodoxe. Il y a tout de même la trace des cadeaux de Noël, de la Befana, des réjouissances de Noël. Mais là, alors, c'est multiplié d'une façon grandiose. C'est un vrai potlatch.
Oui, mais alors le Père Noël, même enfin, les fêtes qui se passent au moment de l'Épiphanie, qui sont, on va mettre en rapport et superposables à ces anciennes traditions, sont tout à fait légitimes dans l'Église catholique.
Oui.
Tandis qu'il semble que le culte du Saint-Esprit ait fait l'objet d'énormément de méfiance et même d'interdiction un peu partout.
Ah oui, mais là, il a été interdit 16 fois, je crois, aux Açores, pour différentes raisons.
L'Église n'en veut pas ?
Elle n'en veut pas pour la bonne raison qu'il y a un débordement. Un débordement saturnien, d'une part, parce que c'est un potlatch, c'est une fête de la joie, c'est une fête des produits de la terre, c'est une fête où on dépense beaucoup.
La fraternité.
La fraternité. L'empereur est un homme qui est désigné, j'allais dire, de façon très populaire. Donc il y a le côté impérial de la chose qui est assez choquant, et puis il y a aussi ce côté sacrifice du taureau, qui n'est pas du tout ecclésiastique, si je puis me permettre cela, et qui, à mon avis, est aussi une syncrèse avec le vieux fond celtique qui est très fort.
Je pense que en Portugal. Je pense en effet que le prétexte pour la condamnation, ça a été très très souvent justement les folies, le côté folichon de ces choses. Et ce n'était pas la vraie raison profonde.
Je crois que l'Église s'est méfiée d'être débordée dans une l'attitude de la théologie du Saint-Esprit, on reviendra probablement là-dessus, à propos de l'iconographie, est très pauvre dans l'Église. Surtout avec le filio cui de l'Église catholique, apostolique et romaine, qui rétrécit le Saint-Esprit à procéder du Père et du Fils. Là, il semble au contraire que dans la manifestation en soi, le Saint-Esprit est premier, est au centre, est important.
Je pense aussi qu'il y a un côté subversif qui a fait peur aux hiérarchies. C'est que cette promesse de la venue dans le royaume du Saint-Esprit, où toutes les classes s'effaceront, toutes les différences entre les hommes s'effaceront, ça peut être le point de départ pour des mouvements, il n'y en a pas manqué d'ailleurs dans l'histoire de l'Europe, de millénarisme qui voulait abattre toutes sortes de lois contre l'Église, contre les rois, contre les pouvoirs en général, pour une sorte d'anarchie, de liberté totale et individuelle. Ce qui, évidemment, représente un risque pour la société, pour la bonne organisation de la société. Donc, il y a tout de même des raisons profondes pour qu'on condamne, enfin, pour éviter le débordement de cette chose. Parce qu'une société comme celle du Saint-Esprit, il faut que tous soient sains pour qu'il n'y ait pas de transgression.
Le culte du Saint-Esprit. Un vol de 1000 colombes dans l'imaginaire portugais, par Emmanuel Drian, avec la participation de José Maria Lima de Freitas et Gilbert Durand.